VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manirakiza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique. C'est un plaisir de vous présenter cette première édition de la soirée. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, vendredi 9 mars 2017. Voici d'abord le sommaire. Le Niger juge à huis clos un millier de présumés combattants de Boko Haram. Au Nigeria, le président Buhari est rentré de sa visite médicale, sans toutefois être dans la capacité de gouverner. Son vice-président est aux commandes, au moins jusqu'à lundi. L'Afrique du Sud confrontée à une crise pour payer les allocations sociales aux retraités. Des militants de l'opposition protestent. C'est Corée du Sud. La Cour constitutionnelle entérine la destitution de la présidente Park Geun-hye. Cette décision met fin à des mois de tourmente politique. Et à suivre après, le journal L'économie et les sports. Le président nigérien est rentré au pays aujourd'hui après un séjour médical de près de 2 mois en Grande-Bretagne. Muhammadu Buhari a annoncé qu'il allait poursuivre sa convalescence, mais a dissipé toute confusion en affirmant qu'il envisageait de reprendre ses fonctions à partir de lundi. Jacques Aristide pour les précisions.
De retour à Abuja, l'ancien général de 74 ans a indiqué qu'il se rendrait de nouveau en Angleterre dans les prochaines semaines pour y subir des examens médicaux et d'ajouter lors d'une réunion politique avec des membres du gouvernement et de son parti qu'il allait pour l'heure continuer de se reposer, d'où sa décision de maintenir son adjoint Yemi Osinbajo à la tête du pays. « J'ai fait exprès de rentrer avant le week-end pour que le vice-président continue », a expliqué Muhammadu Buhari. Il n'a pas évoqué les motifs de son hospitalisation, ce qui provoque depuis quelque temps des rumeurs de toutes sortes dans les médias. Le président Buhari avait quitté le Nigeria le 19 janvier pour être soigné à Londres, après y avoir déjà passé en juin dernier près de 2 semaines, toujours pour des raisons médicales. Des observateurs notent que Yemi Osinbajo a déployé une énergie remarquée à sa tâche de président par intérim. Et dit-on, de sources diplomatiques et dans les milieux d'affaires, les dossiers ont avancé à un rythme inédit depuis l'élection de Buhari il y a 2 ans.
Sachez aussi, Jacques, que l'on parlait déjà de la prochaine présidentielle au Nigeria, mais ce n'est pas lié à la santé du président Buhari. Selon la Commission électorale nationale, la publication du calendrier 2 ans avant les échéances vise une organisation optimale pour les partis politiques, les agences de sécurité, les candidats et tous les acteurs des scrutins. Eh bien, les prochaines élections présidentielles et législatives se tiendront le samedi 16 février 2019 et celle des gouverneurs le samedi 2 mars 2019. Au Niger, un millier de présumés combattants de Boko Haram sont jugés à huis clos. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Ces procès ont débuté depuis début mars dans la plus grande discrétion, n'est-ce pas Tatiana Mosso?
Les prévenus sont des Nigériens, des Maliens et des Nigérians. Les procès vont durer plusieurs mois et concernent surtout des délits et non des crimes dont les peines ne dépassent pas 10 ans de prison. Un dossier peut regrouper 10 à 20 prévenus. Certains ont écopé de 3 à 9 ans de prison ferme. Les crimes seront jugés ultérieurement par d'autres juridictions, a assuré le procureur de la République. Fin décembre 2016, Niamey a annoncé qu'il allait accélérer les procédures judiciaires à l'encontre des présumés combattants de Boko Haram, incarcérés depuis plus d'un an dans le pays. Environ 1200 personnes soupçonnées d'être proches de Boko Haram sont détenues depuis 2015 en attente de jugement. Certains ont été capturés lors de combats ou de contrôles en vertu de l'état d'urgence imposé dans la région de Diffa, frontalière du nord-est du Nigeria. Le groupe islamiste Boko Haram a mené ses premières attaques au Niger début 2015. Au moins 177 civils ont été tués par Boko Haram entre février 2015 et septembre 2016 à Diffa, d'après l'ONU.
Tatiana Mosso. Et dans le secteur de l'éducation, le Niger a détecté plus de 300 enseignants détenteurs de faux diplômes. La plupart sont des contractuels en poste dans les écoles primaires, les collèges, les lycées et les établissements professionnels. Un test d'évaluation qui a démasqué cet entorse est contesté par les syndicats des enseignants qui le jugent illégal. Cette semaine, des milliers d'enseignants contractuels ont observé une grève de 5 jours pour exiger son annulation. Au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, plus d'un millier de personnes ont marché en silence aujourd'hui à Ouagadougou pour soutenir des enseignants de la région du Nord menacée par les djihadistes. Ils ont aussi rendu hommage à un directeur d'école tué lors d'une attaque la semaine dernière. Ces manifestants, des enseignants et des élèves notamment, portaient de brassards et de banderoles noires. Ils ont terminé leur marche par un sit-in devant le ministère de l'Éducation nationale. En Afrique du Sud, des centaines de militants de l'opposition ont dénoncé aujourd'hui à Pretoria le risque de non-paiement en avril des allocations sociales. 17 millions de personnes sont concernées. Cette crise révèle de vives tensions au sein du gouvernement du pays arc-en-ciel. Les explications d'Ossaloua Djafari.
L'affaire des subventions est au centre de cette polémique. L'Afrique du Sud verse chaque année près de 10 milliards de dollars d'allocations pour les retraités, les chômeurs ou encore les handicapés. Le paiement est sous-traité à une entreprise privée, Cash Paymaster Services, dont le contrat s'achève fin mars. L'opposition accuse le gouvernement d'incompétence et pour cause, la ministre du Développement social, Batabile Dlamini, proche du président Zuma, n'a pas anticipé la fin du contrat qui lie l'État sud-africain à CPS ou trouver une solution alternative. Si la ministre échoue dans ce projet, nous lancerons des poursuites criminelles contre elle, a menacé Moussi Maïman, le chef du principal parti d'opposition d'Alliance démocratique, qui organisait la marche. Cette affaire a une nouvelle fois mis en lumière les relations très tendues au sein même du gouvernement du Congrès national africain entre les proches du président Zuma et ceux rangés derrière le ministre des Finances, Pravin Gordhan.
Ossaloua Djafari. Au Soudan du Sud, le Japon retire ses troupes du pays en mai. Ils étaient déployés depuis 5 ans dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Environ 350 soldats participent notamment à des constructions de routes et à leur entretien. Le premier ministre japonais Shinzo Abe estime que son contingent a accompli sa mission. En Algérie, de plus en plus de citoyens se détournent de la médecine officielle. Ce sont surtout des malades graves et désespérés, patients excédés par la dégradation des soins ou leur coût élevé. Le gouvernement craint qu'ils ne soient victimes de charlatans. Le projet de construction de nouvelles infrastructures sanitaires et de modernisation des structures existantes en Algérie a été renvoyé au calende grec en raison de la chute des prix du pétrole, principale ressource du pays. Dans les nouvelles technologies, l'Afrique se dote désormais de son domaine internet .africa pour donner une identité numérique au continent. C'est 32 ans après la création du premier domaine internet.com. Selon la présidente de la commission de l'Union africaine, la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, le nouveau domaine sera disponible à partir de juillet, mais les Africains qui souhaitent l'utiliser peuvent d'ores et déjà introduire une demande, a-t-elle précisé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a entériné la destitution de la présidente Park Geun-hye. Cette plus haute instance judiciaire du pays a conclu que Madame Geun-hye a gravement compromis l'esprit de la démocratie et l'état de droit. Claire Morin-Gibourg.
Emporté par un méga scandale de corruption qui a paralysé le pouvoir à un moment de forte tension régionale, la présidente sud-coréenne, surnommée la princesse de glace, est tombée. La décision unanime des juges de la Cour constitutionnelle signifie qu'une présidentielle anticipée doit être organisée dans les 60 jours. L'annonce a entraîné des échauffourées dans lesquelles deux manifestants pro-Park ont trouvé la mort. D'après la Cour, Madame Park a enfreint la loi en permettant à une amie de se mêler des affaires de l'État. Choi Soon-sil, elle-même jugée pour avoir soutiré des millions de dollars à de grands groupes industriels. Madame Park était devenue en 2012 la première femme à présider son pays. Elle devient aussi le premier chef d'État sud-coréen à être limogé de la sorte. Elle perd également son immunité, ce qui l'expose à d'éventuelles poursuites judiciaires. Pour Kwon Seong-dong, député de premier rang de la fronde anti-Park, ce jugement confirme la règle de droit qui veut que tous, y compris le président, soient égaux devant la justice.
À Washington, le bras de fer continue entre Donald Trump et l'aile droite de la majorité républicaine au Congrès sur la réforme du système de santé. D'une part, Trump veut désengager l'État fédéral et déréguler le marché de l'assurance santé. Et d'autre part, il veut maintenir le haut niveau de couverture parmi les Américains qu'a permis d'atteindre la loi emblématique du mandat de Barack Obama. Les forces spéciales irakiennes ont encore progressé aujourd'hui à Mossoul Ouest et la résistance des djihadistes et du groupe État islamique montre des signes d'affaiblissement face aux assauts répétés depuis le début de l'opération pour les chasser de leur dernier grand fief irakien. L'Allemagne et la France ont appelé aujourd'hui les pays de l'Union européenne à accepter le scénario d'une Europe à plusieurs vitesses. C'est pour permettre à l'Europe de surmonter l'épreuve du Brexit. Mais cette allure est rejetée par les pays de l'Est. L'idée d'une Europe à plusieurs vitesses n'est certes pas nouvelle, mais elle s'impose aujourd'hui dans les débats sur l'avenir de l'Union européenne en pleine introspection sur sa destinée post-Brexit. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Votre moment de suivre l'actualité économique en Afrique, la chronique de la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Une conférence internationale sur l'émergence économique en Afrique va se tenir à partir du 28 mars à Abidjan. La Côte d'Ivoire, qui aspire à l'émergence de son économie d'ici 2020, a besoin d'échanger avec les autres pays qui ont réussi afin que cela soit durable, a affirmé Niale Kaba, la ministre ivoirienne du Plan et du Développement. Des délégations venues de plusieurs pays d'Afrique, dont le Tchad, le Togo, le Sénégal et le Gabon, mais aussi d'Asie et d'Amérique du Sud, sont attendues à cette rencontre de 3 jours. Les prix du cacao, du café et du sucre ont reculé cette semaine, principalement affectés par la vigueur du billet vert. Le cacao s'est stabilisé à Londres, mais pas à New York, et les prix sont restés proches des niveaux enregistrés la semaine dernière, soit les plus bas depuis plusieurs années. Les prix du Robusta ont légèrement reculé après s'être envolés la semaine passée, tandis que le cours de l'Arabica a poursuivi sa descente. Un dollar fort pénalise en effet les investisseurs utilisant d'autres monnaies pour acheter des produits dont les prix de référence sont souvent fixés en dollars. Pour plus de transparence, les autorités centrafricaines vont obliger désormais les acheteurs de diamants et de pierres précieuses à publier leurs autorisations ou permis d'achat. Ces contrôles devraient permettre une meilleure traçabilité du diamant centrafricain.
Sans transition, nous passons à l'actualité sportive. Ce soir, nous changeons de ton. C'est Salwa Jafari qui est là. Bonsoir Salwa.
Bonsoir Eric.
Alors, on commence avec du ballon rond. Tout comme la Coupe de la CAF, la Ligue des Champions reprend aujourd'hui avec les 16e de finale. Allez.
Et oui, à tout seigneur, tout honneur, ce sont les Sud-Africains Mamelodi Sundowns qui ouvrent ce tour aujourd'hui devant leur public face aux Ougandais de Kampala City Council Authority. Les autres équipes exemptées du préliminaire font leur entrée en lice. Il s'agit des Égyptiens de Zamalek et de l'Ali, de l'Espérance de Tunis, de l'Étoile du Sahel, toujours de la Tunisie, le TP Mazembe, la AS Vita Club de la RDC, Al Hilal et Al Marikh du Soudan, le Wydad de Casablanca, et l'USM Alger. Quelques matchs à suivre demain. Les Égyptiens, l'Ahli, vont affronter les Wits de l'Afrique du Sud, l'Espérance de Tunis, les Horoya de la Guinée, le Wydad de Casablanca va jouer contre le CF Mounana du Gabon, l'USM Alger contre les Rail Kodiego du Burundi. Et on revient sur l'exploit de l'équipe du Sénégal ce jeudi qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en battant celle de la Guinée 1-0 à Ndola en Zambie. Les Sénégalais affronteront les Zambiens le 12 mars à Lusaka.
Salwa, nous revenons sur la Ligue des champions de l'UEFA. Que peut-on retenir ?
Eh bien, les Français sont toujours sous le choc suite à leur terrible élimination face au FC Barcelone. Le Barça a battu les Parisiens 6-1. Un moment historique pour la bande à Messi et les fans du Barça. Les hommes d'Unai Emery doivent maintenant se ressaisir, et cela dès dimanche, puisqu'ils affrontent la Lanterne Rouge à l'occasion de la 29e journée en championnat de France. Le moral est loin d'être au beau fixe, surtout que les fans du club ont du mal à contenir leur colère, comme ici à l'arrivée de quelques joueurs. Dans un autre registre, le vice-premier ministre russe chargé des sports, Vitaly Mutko, a été déclaré vendredi non éligible pour siéger de nouveau à la FIFA. Il ne fera pas appel de cette décision, a rapporté l'agence officielle russe TASS. Je rappelle au passage que la FIFA a introduit un nouveau critère, celui de la neutralité politique.
Merci Saloua.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique pour aborder les dossiers du jour. Problème d'électricité en RDC, le géant des Grands Lacs. Toutes les provinces du pays connaissent d'énormes difficultés dans la desserte. Cette situation risque de s'aggraver avec l'annonce cette semaine par le ministre de l'Énergie de la perte du productible au barrage hydroélectrique d'Inga de 350 à 400 mégawatts. La baisse du niveau des eaux du fleuve Congo est à l'origine de ce manque criant de courant électrique. La Société nationale d'électricité avait pourtant promis à la population une amélioration dans la fourniture cette année. Le reportage est signé Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La situation de desserte en électricité est plus que critique sur l'ensemble du pays. Eric Mbala, directeur général de la SNEL, a annoncé la perte du productible à la centrale d'Inga de 350 à 400 MW projetée vers le 27 juillet 2017. Entre-temps, les factures de l'électricité ont connu une hausse, relève le président de la société civile de Kinshasa. Maître Carlos Mopili déplore la mauvaise qualité des dessertes en électricité.
Les agents de la SNEL nous parlent de que cette surfacturation est justifiée par l'augmentation de 18% pour les factures forfaiteurs. Et ce qui n'est pas normal est qu'ils n'ont même pas amélioré leur qualité des produits et des services. Et c'est pourquoi que nous disons que la population congolaise n'est pas à confondre à une mine d'or ou des diamants où on doit venir faire le business. Toujours des délestages, toujours des coupures. Et on coupe les courants lorsque vous entendez des grands événements. Donc, partout, on se plaint sur la qualité des services de la SNEL. Mais par surprise, on vient, on nous augmente la facture pour dire que nous sommes des assujettis des factures forfaitaires. Et ça, nous disons que trop, c'est trop.
Et pourtant, le directeur général de la SNEL, Eric Mbala, était optimiste en janvier 2014 quant à l'amélioration de la qualité de l'électricité.
La deuxième ligne, Inga-Kinshasa, qui va être achevée au mois de juin, et donc qui va mettre fin à l'une des grandes causes des délestages de la ville de Kinshasa, à savoir la limitation de la quantité de puissance que Inga peut déverser dans la ville de Kinshasa. Donc c'est une très grande année pour nous, SNEL. Notez bien, cette année-là, nous serons à la veille de la mise en service de la centrale de Zongo qui doit venir, elle, en 2015. Voilà donc pourquoi nous avons dit que c'est une grande année pour nous, 2014, une année de beaucoup d'espoir, où donc nous allons améliorer le service que nous rendons à la population, aussi bien dans la ville de Kinshasa, au Katanga et d'autres provinces de la République démocratique du Congo.
Deux mois après, Bruno Kapanji, alors ministre des Ressources hydrauliques, contredisait le numéro 1 de la SNEL.
Le programme est en cours de réhabilitation des centrales à Inga et cette opération ne se terminera pas avant 2017-2018. C'est-à-dire que nous allons encore vivre cette situation de déficit.
L'actuel comité de gestion avait reçu mission en 2009 d'améliorer la desserte en électricité. Près de 8 ans après, la situation n'a guère changé. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché hier sur la crise burundaise. Jamal Ben Omar, conseiller spécial du secrétaire général Antonio Guterres, a souligné à cette occasion la fragilité de l'environnement sécuritaire dans le pays, un chômage endémique chez les jeunes en particulier, et la détérioration de la situation humanitaire. La représentation permanente du Burundi à l'ONU a répondu à ces observations. Frédéric Mundikije, notre collègue du service Kirundi, a joint l'ambassadeur Albert Shingiro du Burundi à l'ONU.
C'était rapport biaisé, rapport visiblement politiquement motivé. Comme vous le savez, Jamal Ben Omar, le gouvernement du Burundi a retiré sa confiance en lui. Donc, continuer à demander cette personnalité de l'ONU de préparer des rapports sur le Burundi, vous comprenez qu'il ne peut pas les préparer dans la neutralité. J'ai senti une certaine nervosité, un certain esprit de vengeance contre le gouvernement du Burundi qui a demandé son remplacement. Mais à la fin du compte, j'ai eu moi-même l'occasion de démonter pièce par pièce certains faits qui ont été exagérés, d'autres qui ont été gonflés et certaines omissions intentionnellement préparées. Donc j'ai eu l'occasion moi-même de donner la version du gouvernement. Nous pensons que les membres du Conseil vont pouvoir équilibrer leur prise de position en tenant compte des différentes positions présentées durant la séance.
Vous dites que donc, son rapport est biaisé. Est-ce que vous allez nier qu'il n'y a pas de disparition et des cas d'assassinat au Burundi?
Non, vous savez, la criminalité existe dans tous les pays du monde. Même là où vous êtes, Monsieur Freddy, il peut y avoir des cas de criminalité. Donc nous sommes très engagés, nous attachons une grande importance à la question de la protection des droits de l'homme. Mais certains cas ont été vraiment gonflés, exagérés. Je donne cet exemple des cas de disparition forcée. Vous savez, c'est un phénomène global qui touche pratiquement tous les pays. Mais quand ils donnent des chiffres parachutés comme ça, c'est inquiétant parce que nous savons qu'il y a quand même quelques cas où des gens ont quitté le Burundi pour subir des entraînements paramilitaires dans les pays voisins. Ils ont été automatiquement déclarés personnes disparues. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Donc je ne dis pas que tout est parfait. Il y a toujours de la place à l'amélioration.
Il est prévu que donc le Conseil de sécurité sorte une sorte de déclaration relative à la réunion jeudi. Est-ce que vous pouvez déjà penser à ce que sera le contenu de la déclaration?
Non, c'est très difficile d'envisager le contenu, mais une chose est certaine, après les consultations privées, je m'attends certainement à une déclaration à la presse de la part du président. Tout naturellement, je m'attends à des paragraphes sur la préoccupation par rapport à la protection des droits de l'homme, etc., etc. Mais je ne m'attends pas à une résolution de type la résolution 2303. Je m'attends franchement à des éléments de presse, tout simplement.
Albert Shingiro, ambassadeur du Burundi auprès de l'ONU.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Destination Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Congrès très attendu du parti présidentiel, le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Selon certains médias, l'atmosphère serait tendue en raison de la guerre intestine que se livrent ses grands chefs. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso.
C'est le deuxième congrès statutaire du parti présidentiel, le MPP, qui se tient à partir du 10 mars jusqu'au 12. Et donc, c'est un congrès statutaire qui est écrit dans les textes. Et le thème central de ce congrès est mise en œuvre opérationnelle du programme présidentiel. Quelle perspective et quel engagement? 5000 délégués vont plancher, en fait, sur ce thème-là.
Alors, ce congrès se tient alors qu'on parle de plus en plus de tensions entre les leaders de ce parti, notamment entre le président du Faso, Rocko Kabore, et le président du Parlement, Salif Diallo. Qu'en est-il?
Non, je pense que rien que ce matin, même le président du Parlement, Salif Diallo, a donné une interview à un de nos confrères, l'observateur Palga, et il n'en est rien. À ce stade, il a dit qu'effectivement, il peut avoir certains problèmes, mais ils en discutent, les trois. C'est ce qu'on appelle les RSS, Rock, Salut, Simon. Ils discutent, mais il a fait sous forme de boutade en disant que leurs adversaires sont pressés pour que ça impose, mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Et ça tient entre les trois.
Oui. Alors, mais vous êtes un observateur de la scène politique. Hein. D'où vient donc cette rumeur-là? Est-ce que c'est seulement les adversaires qui essaient de distiller ce genre d'informations?
Non. C'est vrai qu'il y a eu des moments où, bon, mais ça date quand même où il y a eu quelques sorties du président de l'Assemblée nationale qui a donné l'impression qu'il y avait des disputes entre lui et le président du Faso. Mais je pense que tout ça a été recadré et aujourd'hui, bon, en tant qu'observateur, sauf vraiment erreur d'analyse, je pense que jusqu'à présent, les trois leaders du MPP savent qu'ils sont embarqués sur le même ratio, sur le même bateau, et qu'ils n'ont pas intérêt à vraiment livrer ce bateau-là au vent. Ils doivent tenir ferme le gouvernail pour en tout cas aller vers des lendemains meilleurs pour le Burkina Faso.
De façon générale, comment est appréciée la gestion du pouvoir par le MPP?
Bon, actuellement, le seul hic, c'est que économiquement, ça ne va pas. L'économie burkinabé est exsangue et actuellement, il y a beaucoup de grèves, il y a des grèves fermées, ce qui fait que l'administration est souvent paralysée. Il y a aussi la problématique de l'insécurité dans le nord du Burkina, en particulier dans le Soum. Donc voilà les deux problèmes actuellement auxquels le pouvoir doit faire face.
Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé aujourd'hui qu'il laissait les rênes du pouvoir à son vice-président Yemi Osinbajo. Âgé de 74 ans, le président est revenu après 2 mois d'absence à Londres pour repos médical. Il devrait officialiser son retour à la présidence dès lundi, apprend-on de sources officielles. Pour rappel, Yemi Osinbajo a dirigé le Nigeria pendant son absence, selon les termes de la Constitution. Plus d'informations avec le professeur Tundonu Amosu, ancien vice-recteur de l'Université d'État de Lagos.
On est bien content qu'il soit de retour. Évidemment, pendant son absence, il y a eu beaucoup de gens racontaient toutes sortes d'histoires parce qu'ils n'étaient pas au courant de la réalité de la situation. Mais maintenant qu'il est de retour, lui-même, il vient de dire qu'il se sent un peu, il n'est pas très en forme et qu'il a décidé de demander à son adjoint, au vice-président, de continuer le travail de la direction du pays. Donc, il ne faut pas séparer le président du vice-président. Les deux ont été élus sur un programme commun. Et c'est effectivement ce programme qui permet au Nigeria de repartir sur de bonnes bases. Mais évidemment, il y a toujours, vous savez, le Nigeria, chacun a la possibilité de dire ce qu'il pense. Il y a certains qui se disent que de toute façon, son absence n'a fait qu'améliorer la situation. Bon, ça c'est une manière de penser, mais je ne crois pas que cela soit l'opinion de la grande majorité.
Quel est l'impact de cette incertitude sur la vie politique et économique au Nigeria?
Nous savons qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises en son absence, mais je crois que ces décisions, c'était à la suite des consultations avec le pays. Tout porte à croire que de toute façon, le Nigeria a toutes les chances de repartir sur de bons rails.
Quelle lecture faites-vous du fait que beaucoup de chefs d'État africains vont se soigner à l'étranger?
Non, ben, moi, je vois d'un très mauvais œil cette idée d'aller tout le temps, surtout en Europe, en Amérique, pour se faire soigner, parce que c'est vraiment un désaveu du système en place. Je crois que le plus simple, et c'est ce que disent beaucoup de Nigériens, c'est de bien améliorer les structures en place pour que les gens n'aient pas besoin, y compris le président, d'aller se faire soigner à l'étranger. Et je crois que c'est une très mauvaise habitude africaine quand on a les moyens. D'accord, mais si tout cela, c'est vraiment le pays qui doit payer, ça, c'est, il y a une question de moralité là-dedans.
Le professeur Tundonu Amosu, ancien vice-recteur de l'Université d'État de Lagos, au micro de Blanche Sanou.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. Ainsi va le monde aujourd'hui. Eric Manilakiza vous retrouve à 19h30. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.